Aujourd'hui, Jean-Claude Chesnais va nous parler de démographie et croissance. Il est né en 1948, il est directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques, maître de conférences à Polytechnique et à l'ENA. C'est un expert démographe. Il est l'auteur d'un certain nombre de livres qui sont relativement accessibles, je veux dire, en librairie. Une histoire de la violence en Occident, qui est parue en 1981, mais qu'on trouve toujours dans la collection Pluriel, chez Hachette, Histoire de la violence en Occident. Un Que sais-je sur la démographie, qui est paru aux presses universitaires de France en 1990 et qui a été réédité pour la quatrième fois en 1998. Un livre chez Bordas en 1991 sur la population du monde de l'Antiquité à 2050. Et enfin, chez Lafont, en 1995, Le crépuscule de l'Occident, démographie et politique. Je lui donne tout de suite la parole. Merci.
Oui, merci, Monsieur Michaud. Alors, j'ai un sujet assez compliqué qui a, vous le savez, été l'objet de controverses depuis très longtemps, en particulier au XVIIIe siècle. C'est la relation entre la démographie et la croissance. Je vais l'aborder de façon assez statique, parce que je n'ai pas les moyens de reconstruire l'histoire économique qui est toujours l'objet de débats pour des parties importantes de la planète. En général, quand on a des mesures du revenu global de certains pays, il faut savoir qu'il s'agit d'estimations quelquefois très, très grossières. Alors, et la question de la croissance, en plus, c'est un peu la boîte noire, un peu la boîte noire des économistes. On ne sait pas pourquoi, c'est un peu comme le mistigris, on ne sait pas pourquoi la croissance apparaît, pourquoi on a rendez-vous avec elle à un certain moment, et pourquoi à d'autres moments elle disparaît. C'est quelque chose d'assez étrange, suivez en particulier ce qui se passe en ce moment en matière de conjoncture mondiale. Personne n'avait anticipé une relance de la croissance américaine, personne ne sait ce que sera vraiment la croissance française cette année, il y a des esprits qui penchent d'un côté ou de l'autre. Et on nous annonce même le plein emploi d'ici 8 ans, comme si en 8 ans on pouvait résorber ce qu'on a accumulé sur une trentaine d'années. Alors au XVIIIe siècle, je vous le disais, les termes du débat étaient déjà en place, il y a eu une controverse entre Malthus, qui a attaché son nom à la démographie, ce qui est assez dommage. Malthus, qui avait une vision assez fixe de l'évolution économique, et Condorcet. D'ailleurs, Malthus a écrit son livre en réaction contre Condorcet. L'essai sur le principe de population de Malthus était en fait une réponse, ou se voulait être une réponse, à l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain écrit 3 ans plus tôt. Alors, Condorcet imagine l'innovation, il imagine le progrès, comme il le laisse entendre dans le titre, et il ne se trompe pas. En matière d'espérance de vie, on a eu une évolution absolument impressionnante au XXe siècle. Globalement, à l'échelle de la planète, l'espérance de vie a à peu près triplé. Pour un pays comme l'Inde, sur lequel on dispose d'excellentes données, il s'agit effectivement d'un triplement. On est passé d'une espérance de vie qui était de l'ordre de 20 ans jusqu'en 1920 à peu près. Elle était très faible parce qu'il y avait des catastrophes récurrentes, périodiques, en matière alimentaire et aussi en matière de paix civile. Donc on a eu un triplement d'espérance de vie, et puis une autre chose qui est très importante, qui montre que la nature humaine est très flexible, c'est que l'espérance de la fécondité elle-même s'est ajustée quand ça a été nécessaire à l'augmentation des effectifs libérés par l'allongement de la durée de vie humaine. La fécondité s'est mise à dégringoler justement comme phénomène d'ajustement à partir de 1965-1970, disons sur le dernier tiers du siècle. Sur le dernier tiers du siècle, la fécondité a été divisée par 2 à l'échelle mondiale. Ce sont des éléments qui doivent être entrés dans les esprits parce qu'on a tendance à sous-estimer la plasticité des comportements humains. Et compte tenu de ce que je viens de dire, le triplement de l'espérance de vie, on a eu une accélération de la croissance démographique, qui n'a pas toujours été suivie par une évolution économique suffisante. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération, là, je vous le montrerai tout à l'heure, même dans les pays qui sont considérés comme en situation extrêmement difficile, il y a eu des progrès, le problème c'est qu'ils ont été trop lents. Alors la population du monde a quadruplé au XXe siècle, mais l'ennui c'est qu'il n'y a pas de corrélation simple, évidente, entre l'évolution des effectifs et la réaction en termes de progrès économique. Je vais d'abord vous présenter un premier transparent. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais j'espère. Je vais commenter. C'est une carte qui montre où sont les hommes. Après, je vous présenterai une carte qui montre où sont les richesses. Alors, vous reconnaissez la planète avec ses grands continents. Et la première zone de concentration humaine est ici. Elle est localisée en Chine, surtout dans la Chine côtière. De façon générale, les habitants vont là où il y a de l'eau. C'est l'eau qui est la première source de vie. Vous avez une première masse démographique ici, avec un prolongement en Corée du Sud et puis au Japon, sur une fraction du territoire mondial assez faible. La Chine occidentale n'a que très peu d'habitants. Il faut dire qu'elle est aride et qu'elle est en haute altitude. Vous avez une deuxième poche de fort peuplement, c'est l'Inde du Nord, tout ce qui se situe dans la plaine indo-gangétique. Et après, la troisième zone de peuplement, c'est l'Europe. Mais vous voyez bien que il n'y a pas de place aussi compacte en Europe que dans les deux foyers principaux d'Asie. Et globalement, si vous additionnez tous les habitants qui sont à l'intérieur de ce cercle, vous obtenez la moitié de la population du monde. Il y a donc une Asie qui pèse sur le plan démographique et qui l'emporte de loin, depuis toujours, depuis qu'on a des éléments statistiques. Et maintenant, grosso modo, à l'échelle de la planète, on peut dire que 3 êtres humains sur 5 sont asiatiques. Et le phénomène va rester à peu près de même ordre de grandeur sur les prochaines décennies. Mais si vous regardez les autres continents, vous avez des surprises. Regardez l'Afrique. L'Afrique est un immense espace. Le Proche-Orient aussi est un immense espace. Vous avez d'autres zones comme l'Australie, les deux Amériques, où vous avez des peuplements relativement faibles. Aux États-Unis, vous avez la confirmation de ce que je viens de vous dire, la plupart des habitants sont sur les côtes. Vous avez une autre poche de peuplement ici, dans le prolongement des États-Unis, c'est le Mexique. Mais globalement, les deux Amériques restent, je ne dirais pas vides, mais peu pleines par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Alors, l'Afrique est un continent assez étrange, vous avez des poches de surpeuplement impressionnante, là, dans la vallée du Nil, la plupart des Égyptiens, disons 95 ou 97% des Égyptiens, vivent le long du Nil. Le Nil est considéré comme un don de Dieu. Et vous avez une autre poche de surpeuplement intérieur, c'est la région des Grands Lacs. Ça confirme toujours la polarité créée par l'eau. Mais on ne peut pas parler, comme on le fait, facilement de surpopulation mondiale. Il y a des surpopulations locales ou nationales très difficiles à gérer. Je pense au cas le plus, probablement le cas le plus symptomatique, c'est le cas du Bangladesh. Sinon, vous avez des contrastes absolument impressionnants. Et c'est ce qui l'emporte dans la lecture de la carte du monde. Alors, en fait, si on résume la situation, on s'aperçoit qu'il y a une planète bleue, en fait, qui est recouverte d'eau pour les deux tiers. Le tiers restant, ce sont des terres émergées, mais si on regarde bien à l'intérieur des terres émergées, pour l'ensemble des terres émergées, on a seulement un tiers qui est véritablement occupé. Le reste étant peu accessible et peu adapté à la vie humaine. Et si je parle du tiers en question des régions où il y a une présence humaine, En fait, il faut savoir que ce tiers tend à se rétrécir. Les hommes tendent de plus en plus à s'agglomérer, à coaguler, si vous voulez, autour des nœuds de peuplement principaux. Vous le voyez par exemple en France. La France est en fait, du point de vue du peuplement, un tissu de villes grandes ou relativement moyennes. Et à l'extérieur de ces zones à fort peuplement, il y a très peu d'habitants. Le cas des États-Unis est similaire, le cas de l'Espagne, et vous pouvez prendre la liste, s'allonge parce que régulièrement les gens quittent le milieu rural, précisément parce que on assiste à des progrès de productivité dans l'agriculture qui sont tout à fait hors de ce qu'on pouvait espérer dans le meilleur des cas. Et c'est justement ce qui donne tort à Malthus. Malthus a eu raison, et qui donne plutôt raison à Condorcet, même si la situation est loin d'être satisfaisante, j'y viendrai tout à l'heure. Vous avez eu, pour un pays comme la France, qui est assez représentatif des pays développés, je dis bien développés, pour les autres, il y a des contrastes impressionnants entre les pays peu développés au sein de l'ensemble. Pour la France, les rendements agricoles ont été multipliés par 10 au XXe siècle. Alors que Malthus laissait entendre que c'était une sorte de donnée, que bon, on ne pouvait pas tellement étendre les surfaces cultivables et en particulier irrigables. Et il s'est passé exactement le contraire. Le rendement en blé, par exemple, est passé de l'ordre de 10 hectares à près de 100. Et bon, vous avez des pays où les choses sont allées encore plus vite. Il suffit de penser aux Pays-Bas. Donc ça met en cause le pessimisme de Malthus. Et un autre point qui met en cause le pessimisme de Malthus, c'est le fait que peu de pays ont suivi une croissance mécanique comme il le prévoyait. Il prévoyait que la population avait tendance à doubler tous les 25 ans et sans autre précision. On n'a jamais eu de choses semblables sur les 200 et quelques pays que compte la planète, selon la définition des Nations Unies. On a eu deux cas sur les 200 qui se sont comportés pendant une période de l'histoire relativement courte, deux siècles et demi, selon le modèle de Malthus. Alors ces pays, c'est les États-Unis, mais les États-Unis ne sont absolument pas représentatifs d'une situation typique, puisqu'ils se sont peuplés en écrétant les surplus de population essentiellement européens maintenant, les surplus qui sont asiatiques et latino-américains. Donc ce n'est pas une situation, si vous voulez, d'évolution endogène ou naturelle, c'est une situation relativement artificielle. Donc il faut soustraire le cas des États-Unis où la croissance effectivement est exponentielle jusqu'aux années 20. Aux années 20, les États-Unis ont mis en place des quotas d'immigration qui ont presque tari les mouvements en provenance de l'Europe. Et les mouvements, d'ailleurs, étaient très faibles. En provenance du Mexique, par exemple, et en provenance d'Asie, ils étaient complètement nuls. Donc, le deuxième cas, c'est l'Irlande. Mais l'Irlande s'était convertie, si je puis dire, à la culture de la pomme de terre. C'était devenu une monoculture. Et chacun connaît le proverbe, il ne faut jamais mettre ses œufs dans un même panier. Il ne faut pas se concentrer sur un seul moyen de subsistance, parce qu'il peut y avoir une irrégularité de la pluviométrie, et à ce moment-là, une catastrophe se produit. Et l'Inde a connu des catastrophes répétées entre 1847 et 1851, et du coup, elle a changé de régime démographique. Ça a été une période très courte de l'histoire irlandaise. Voilà donc la situation à l'état du monde. À l'échelle du monde, il y a des régions très surpeuplées, je vous l'ai dit, où les densités rurales, je ne parle pas des villes, où les densités rurales dépassent 1000 habitants au kilomètre carré. Et autre chose que je dois ajouter, c'est une chose assez peu connue, depuis le XVIIe siècle, les régions les plus importantes qu'on a vues en masse, celle-ci, si vous ajoutez l'Australie et les deux Amériques, plus la Sibérie, où il n'y a presque personne, ces ensembles n'avait quasiment pas d'habitants, ou des nombres extrêmement faibles. Je pense par exemple aux Amériques. À l'époque, il y avait 22 millions d'habitants vers 1700, seulement sur ces grands espaces qui représentent la moitié de l'espace de la planète. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'explosion démographique européenne, où avait lieu la transition démographique à partir du XVIIIe siècle, s'est traduite par des mouvements de masse vers ces continents vides. Et le poids de ces continents vides est passé de 22 millions d'habitants à plus de 800 millions maintenant, presque 900 millions. Alors maintenant, je vais vous présenter une carte qui va être encore plus difficile à lire que celle-ci, parce que bon, il y a des couleurs que vous voyez peut-être ici, mais que vous ne verrez pas, malheureusement, parce que bon, l'interprétation n'est pas possible, mais vous les verrez, les masses rouges, vous les verrez en noir. Alors, si vous faites maintenant une carte de la planète avec la répartition des richesses et non plus des hommes, vous constatez des disproportions absolument sidérantes. Vous avez le premier espace économique qui est celui de l'Amérique du Nord. Le voici, le rectangle est proportionnel au poids économique de l'Amérique du Nord. Alors, vous voyez, il y a une masse écrasante sur le plan économique ici. Vous avez en deuxième lieu l'Union européenne à 15. Et en troisième, vous avez des pays comme le Japon et les pays qui l'entourent, qui sont en relation étroite, en particulier grâce au commerce international avec l'économie nippone. Ailleurs, il y a très peu, il y a des masses extrêmement faibles et on trouve des surprises assez impressionnantes. Mais si on met bout à bout les trois pôles de richesse, ALENA, Association de libre-échange nord-américaine, Union européenne à 15 et Extrême-Orient à économie de marché, on a la grande majorité des richesses produites à l'échelle de la planète. Par contre, il faut évidemment différencier pour les pays moins développés, dont on va parler maintenant, en faisant une conversion de la richesse économique, non pas grâce à l'aide des taux de change, mais à l'aide des prix. Si on utilise un panier de prix identique, on a un PIB qu'on appelle à ce moment-là PIB en parité de pouvoir d'achat. Alors, à ce moment-là, bon, ben, certes, la prééminence des États-Unis et de l'ALENA à travers le Canada et le Mexique, elle reste forte. C'est à peu près un quart de l'économie mondiale, un quart de la richesse est produite ici. Si maintenant on passe à l'Union européenne, c'est à peu près 20%. Autrement dit, les deux, l'ensemble transatlantique, ALENA plus CE, produit 45% de la richesse mondiale. Si vous voulez additionner l'Extrême-Orient avec l'économie de marché, vous aboutissez à presque 60%. Il y a donc trois pôles qui détiennent l'exclusivité de la richesse, presque. Et ailleurs, vous obtenez des résultats assez étonnants. J'ai classé en quatre la Russie pour des raisons de proximité, parce que la Russie est européenne. La Russie, vous le savez maintenant, dans la classification des Nations Unies, n'est pas seulement la Russie européenne. Elle est amalgamée à l'Europe, c'est aussi la Russie asiatique. Cet ensemble est proche de l'Europe, la Fédération de Russie, avec son prolongement asiatique, qui est très très grand en termes d'espace, mais pas très importante la partie asiatique en termes de peuplement, c'est à peu près 10% des habitants de la Russie. Alors la Russie donne une image très très changeante par rapport à ce qu'on avait à l'esprit jusque la chute du communisme. En fait, la Russie est un pays qui pèse très peu dans l'économie mondiale. Ça a été la grande surprise qu'on a connue au début des années 90, après avoir fait une sorte d'introspection de la situation russe. Ça a été une surprise comparable à celle qu'on a vue pour la RDA. on a dû d'un coup dégonfler les PIB dans tout l'ensemble communiste. Et les choses ne s'arrangent pas tellement en Russie. La Russie, elle est très, très petite. Elle est ici. Vous voyez, c'est un petit carré jaune dont le poids dans la richesse mondiale est seulement de à peine 2%. Ça remet totalement en cause les idées qu'on s'était faites avant le démantèlement du communisme. On était convaincu qu'il y avait deux superpuissances, pas vraiment à parité stricte, mais il y avait deux superpuissances, les États-Unis sous la bannière fédérale, libérale et fédérale, et la Russie sous la bannière du socialisme. En fait, on s'aperçoit que la Russie a un PIB presque 20 fois, presque 10 fois plus faible que celui des États-Unis. Donc, elle ne compte que très peu sur la planète économique du monde. Ensuite, on peut prendre un autre pays intéressant, c'est la Chine continentale. Mais là encore, je serai très prudent, parce qu'il me semble que sur la Chine continentale, j'ai assez longtemps travaillé sur la pauvreté en Chine, il me semble que beaucoup de données de la Banque mondiale soient difficilement compatibles avec les chiffres publiés par les agences internationales sur la Chine. La Chine représenterait 1/16 de la richesse mondiale. Mais compte tenu de son nombre d'habitants, ce n'est pas impressionnant. L'Inde a un poids économique qui est de l'ordre de 4,3%, c'est un 25e. L'Amérique latine, par contre, donne une vue plus positive. L'Amérique latine a un poids économique qui est relativement élevé. Et on a tendance à l'oublier. Elle est en fait intermédiaire entre le monde européen, de part et d'autre de l'Atlantique, et les pays peu développés. Elle est en position intercalée. Donc 6,7% de la richesse mondiale pour l'Amérique latine. Le Moyen-Orient et le Maghreb sont dans une situation moins bonne, avec la moitié de ce qu'on constate en Amérique latine. Et j'arrive au dernier ensemble. J'ai décomposé la planète en 10 blocs. Le dernier ensemble, le plus défavorisé et de loin, c'est l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne a atteint à peu près 1/60 de la richesse de la planète. Et l'Afrique subsaharienne, vous le savez, est en croissance démographique très rapide, en désorganisation, en situation de chaos, et elle cumule les handicaps. Alors, ça pose un très gros problème. Alors, je vais passer à un autre point. C'est le seuil de pauvreté international qui situe un peu les différentes régions, les unes par rapport aux autres, en matière de besoins minimaux, en particulier en matière de besoins alimentaires. Les besoins alimentaires sont loin d'être satisfaits dans le monde. Il y a une répartition très, très inégalitaire. Et les gens qui sont les plus pauvres sont caractérisés par la Banque mondiale par le fait d'avoir un niveau de richesse inférieur à $1 par jour. Alors, vous imaginez ce que ça veut dire. Beaucoup de ces personnes ne mangent pas ou peuvent se payer seulement un repas, souvent issus de leur propre culture, un repas par jour. Et l'ensemble des personnes concernées est de l'ordre de 1,3 milliard. La pauvreté extrême, caractérisée par le seuil que je viens de définir, en fait, touche les pays d'Asie, les grandes masses d'Asie, la Chine et l'Inde, avec des chiffres assez peu différents pour le nombre de pauvres. Pour l'Inde, c'est 450 millions, et je crois que c'est bien dénombré. Pour la Chine, c'est officiellement 350 millions, mais je ne suis pas sûr que les chiffres soient tout à fait comparables. Mais il y a en Afrique plusieurs grands pays où la situation alimentaire est complètement désorganisée. C'est le cas du Zaïre, vous le savez, à cause d'une guerre civile. C'est le cas de l'Éthiopie, là aussi, à cause d'un conflit politique. Et c'est le cas du Nigeria, qui est devenu une sorte de poudrière, alors qu'a priori, il y avait beaucoup d'éléments favorables pour s'en sortir. et pour se développer. Il y avait une rente pétrolière assez importante. L'ennui, c'est que ça a créé la division plutôt que l'union, et ce cas n'est pas très rare. Alors, la différence entre les deux régions que j'ai mentionnées est la suivante. La situation tend plutôt à s'améliorer en Asie, au moins en Asie du Sud, alors qu'elle se détériore en Afrique. En Afrique, le pourcentage des habitants en Afrique subsaharienne vivant en état de pauvreté aiguë est de l'ordre de 40%. Alors qu'en Inde, la situation a été assez proche jusqu'au milieu des années 80 et maintenant elle progresse. Mais là encore, il faut faire des comparaisons plus globales pour voir ce qui se passe. Je peux faire des comparaisons, par exemple, entre le PIB, la richesse des pays industriels, par tête, comparée à celle des pays en développement. Le ratio n'a quasiment pas changé depuis un quart de siècle. Les rapports de PIB entre les pays industriels et les pays en développement sont restés de l'ordre de 21 à 10. 21, la richesse monétaire des pays plus développés, et 21 une fois plus forte que celle des pays en développement. C'est assez effrayant. Ça veut dire que bon, les pays en développement, certes, améliorent leur situation, mais il y a un handicap qui devient quasiment insurmontable. Et si on regarde la situation, non plus en prenant les deux ensembles, pays développés et pays non développés, mais en prenant les pays industriels au sens des pays riches, en excluant donc l'Union soviétique et beaucoup de pays socialistes, ex-socialistes, on voit qu'à ce moment-là, l'écart se creuse radicalement. La différence était de l'ordre de 44 à 1 entre les pays les moins développés, les pays industriels et les pays les moins développés. C'était de 44 à 1 en 1975 et maintenant c'est à presque 80 le ratio en faveur des pays développés comparé aux pays les moins développés est presque doublé. Alors, beaucoup d'éléments ont pu jouer. Il se trouve que la croissance dont on parle beaucoup dans les pays riches, ben, elle existe. Elle n'est peut-être pas, elle n'est jamais assez rapide pour ce qu'on espère, mais elle existe, elle se poursuit. Les progrès de productivité sont importants. Ils sont de 1%, 2%, dans certains cas 3%, mais c'est absolument impressionnant. Par contre, dans les pays qui stagnent, qui sont les plus pauvres, vous avez des situations, en fait, qui sont bridées par le chaos économique, la guerre. Pensez par exemple à la Birmanie, pensez à un bon tiers des pays d'Afrique subsaharienne. Vous avez une instabilité, une absence de cohésion qui empêche la progression et dans certains cas même qui font les pays régresser. Je vous disais en tout début qu'il est difficile de prévoir la croissance. Ce sera de plus en plus ainsi. Regardez ce qui était prévu vers 1990 pour les deux puissances les plus importantes, les États-Unis et le Japon. Vers 1990, tout le monde disait que le Japon était le numéro un, que le Japon maîtrisait les hautes technologies, que le Japon avait une épargne absolument fabuleuse et qu'il entraînait dans son sillage toute une partie, il y avait l'image, vous savez, d'un vol avec un oiseau qui précédait les autres, c'était le Japon, et derrière, il y avait tous les territoires environnants. La plupart des experts disaient, bon, le Japon va gagner la partie, les États-Unis sont dans une situation extrêmement difficile. En fait, la situation des États-Unis, de mauvaise conjoncture, n'a duré que vers 1991-1990, et les États-Unis se sont repris. D'année en année, on s'aperçoit qu'en fait, la croissance a duré plus que ce qu'on imaginait. On prévoyait un cycle de croissance de 6 ou 7 ans. En fait, on est largement au-dessus des 6-7 ans. On est en train de passer à 7, 8 ans maintenant, et on envisage que la croissance se poursuivra encore très longtemps. Donc il faut être très prudent, on est régulièrement surpris et sans être capable d'anticiper. Et là, il est possible que la démographie échoue un certain rôle. Le Japon est en situation de récession démographique. Il a une fécondité inférieure au seuil de remplacement depuis 1957. Et cette récession démographique s'approfondit d'année en année. Et du coup, vous avez un reflux de la population des jeunes ménages. Et les jeunes ménages sont l'évolution du nombre de jeunes ménages est un des moteurs de l'économie. Parce que les jeunes ménages sont justement ceux qui demandent à s'installer et à s'équiper dans une économie. Alors, ils demandent à s'installer en termes de logement, à s'équiper en termes d'audiovisuel, en termes de savoir, en termes de voitures, électroménager, absolument tout. Et si leur nombre fléchit, ce qui est le cas du Japon, c'est un élément de ralentissement de la demande et de moindre investissement en provenance de l'étranger. Au contraire, aux États-Unis, on a une conjoncture qui n'est pas du tout la même. Les États-Unis ont gardé une évolution démographique assez équilibrée. La fécondité n'est jamais vraiment tombée sensiblement en dessous du seuil de remplacement, même depuis 1970. Et il y a un peuplement par une immigration relativement forte. La région la plus dynamique des États-Unis, vous le savez, c'est la Californie. La population de la Californie a été multipliée par 3,5 depuis 1950. Il y avait une dizaine de millions d'habitants, disons, vers 1950. Maintenant, il y en a à peu près 35, et tout le monde sait que ça va continuer encore un certain temps. En fait, quand on songe à la carte que je viens de vous montrer, la carte des richesses, la carte économique du monde, on s'aperçoit que globalement, elle correspond à peu près à une carte politique, c'est-à-dire la carte de la liberté. Ce sont les démocraties qui ont su le mieux s'adapter aux changements techniques et libérer les énergies en faisant confiance aux individus. C'est l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et le Japon. Le Japon n'est pas une démocratie aussi stricte, au sens aussi strict qu'en Occident, mais c'est tout de même une démocratie pluraliste. Mais il n'y a pas donc de fatalité démographique dans le sous-développement ou dans le développement. Il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est celui du Mexique. La population du Mexique a été multipliée par presque 8 entre 1900 et l'an 2000, et le revenu a quintuplé. Donc le Mexique a eu pendant d'ailleurs très longtemps la vitesse de croissance démographique la plus forte du monde, entre 1950 et 1970. Et pour ce qui nous concerne, il y a des choses qu'il faut bien méditer, c'est que l'Europe occidentale n'a pas su entraîner ses voisins dans la croissance. Ça viendra peut-être avec l'élargissement à l'Est, mais elle n'a pas su le faire. Et c'est vrai pour l'Est, l'Europe occidentale est entourée à l'Est par des pays pauvres, c'est les pays d'Europe centrale et orientale, et surtout par une Union soviétique et ces morceaux, ces fragments maintenant, qui sont dans un état de très grande pauvreté et qu'on a tendance facilement à agglomérer avec l'Afrique, parce que le degré de pauvreté est assez peu différent. L'autre, donc, l'écart de revenus entre cette Europe occidentale et l'Europe plus à l'ouest, et les pays au sud ne cessent de grandir. À l'est, elle se combine maintenant à une dépression démographique et à une décomposition, dans certains cas, de politique. Et on se demande, dans ces conditions, ce que vont être les potentialités de progrès pour l'avenir. Alors, je crois que l'Europe aura un devoir, si elle veut s'éviter des conflits et si elle veut faciliter le développement, c'est d'essayer de combler cette différence qui, à terme, posera un certain nombre de problèmes. Je voulais vous dire quelques mots aussi sur le sur les éléments qui ont joué dans le retard économique de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique subsaharienne. En fait, ces éléments, certes, peuvent être dans certains cas la démographie, mais pas spécifiquement. Pour la Chine, vous avez un trait spécifique, c'est la faible proportion de diplômés, en particulier de diplômés du supérieur. Et parmi eux, très peu parlent la langue dominante des affaires, de la culture, c'est l'anglais. Vous avez un degré d'inégalité en Chine qui, contrairement à ce qu'on croit, est très supérieur à celui de l'Inde. L'Inde est le pays qu'on cite toujours comme le pays des inégalités. En fait, c'est vrai, mais vous avez des pays où les inégalités sont beaucoup, beaucoup plus grandes. L'enclavement dans le cas de la Chine, l'isolationnisme, la Chine ne représente que 3% du commerce mondial. Donc, d'où sa marginalisation en termes de PIB total. Un autre élément sur la Chine, c'est la faiblesse des investissements étrangers. Les investissements qui vont vers la Chine sont presque exclusivement ceux de la diaspora. L'application d'un modèle stalinien pendant très longtemps aussi a joué, jusqu'au début des années 80. Les communes populaires n'ont été démantelées que vers le milieu des années 80. Et il y a encore une dernière chose que je ne dois pas oublier, c'est l'absence de support logistique à la croissance. En fait, les infrastructures sont très en retard. Il n'y a pas un réseau routier ni un réseau ferré couvrant la Chine profonde, ce qu'on appelle le ventre de la Chine. C'est toute la Chine de l'intérieur, hors côte. Pour l'Inde, là aussi, il y a des éléments. Ce n'est pas l'évolution démographique en tant que telle, je crois, qui a pu jouer. C'est le fait que la Chine a suivi un modèle, pendant très longtemps, copié sur le modèle soviétique, avec ce que ça veut dire. Le modèle soviétique est un modèle qui donne la préférence à l'industrie. Or, l'Inde est un pays massivement agricole. Donc, les paysans ont vécu sans être associés pendant très longtemps, sans être associés au développement. Cela dit, le cas de l'Inde mérite plus ample réflexion parce que si on regarde la conjoncture économique depuis 1990, l'Inde est un des pays, contrairement à ce qu'on croit, qui a la croissance la plus rapide, 5 à 6% par an depuis 1990. Et bon, la libéralisation, la bureaucratie recule, la libéralisation avance et rien ne permet de dire que ce pays va être l'image de la pauvreté pour toujours, comme on avait décrite pendant longtemps. En Afrique subsaharienne, là aussi, il y a des fautes de gouvernement. Je crois que c'est ça qui fait la différence. Ce sont les fautes de gouvernement plus que des fatalités liées au climat, liées à l'absence de ressources. Regardez ce que sont devenus les Pays-Bas, ce qu'est devenue la Suisse. Ce sont des leçons à méditer. Il y a eu un développement des cultures commerciales en Afrique subsaharienne au détriment des cultures vivrières. Et l'Afrique, comme bien des pays, a été victime de la politique agricole commune. La politique agricole commune a consisté à donner de l'argent pour faire baisser les prix aux agriculteurs et elle a eu des effets dévastateurs sur les économies qui étaient massivement paysannes, qui n'ont pas pu entrer dans la concurrence. Ça, c'est un des problèmes essentiels. Les autres éléments structurels qui font que l'Afrique n'avance pas ou très peu, sauf dans certains cas, c'est le micronationalisme. L'Asie est un ensemble de pays très, très fragmentés. Et si vous regardez la carte des richesses dont je vais vous parler à l'instant, voilà ce que représente l'Afrique en termes de PIB. PIB monétaire. Bien sûr, si c'était le PIB en pouvoir d'achat, ce serait un peu plus. Voilà. C'est ce petit, ce qui ressemble à une équerre. Et si vous allez, si vous creusez un peu, que vous enlevez l'Afrique australe, vous arrivez ici. Si vous enlevez l'Égypte et le Maroc, il vous reste ça. L'Afrique quasiment squelettique. Il y a les guerres aussi qui font que l'Afrique n'avance pas. Bon, certes, la croissance démographique est probablement trop rapide. Les guerres, un pays sur trois ou un pays sur deux, selon les régions d'Afrique, est en guerre. Alors, ça ne fait pas avancer, la division ethnique non plus, ça ne fait pas avancer le développement. Et le tout dernier élément, c'est la fin de la guerre froide. Tant que l'Afrique pouvait être un enjeu entre les deux pôles socialiste et libéral, l'Afrique intéressait. Et beaucoup de gens essayaient de se rendre indispensables auprès des gouvernements. Les grands pays essayaient de faire de l'Afrique une zone d'influence. Je vais terminer sur une conclusion. D'abord sur quelques chiffres. Le PIB par habitant des trois grands du monde, la Chine, l'Inde et les États-Unis. Les États-Unis sont en quatrième position pour le PIB en PPA. L'Inde, toujours en 163e. La Chine, 135e rang. Donc vous avez des disproportions colossales. Mais il faut savoir que, quel que soit le cas, en particulier pour la Chine et l'Inde, le revenu par habitant a plus que doublé, quelquefois même quintuplé, entre 1950 et aujourd'hui. Ça relativise un peu la carte qui donne une vision statique que j'ai présentée. Et je voulais terminer sur une citation de Stuart Mill, le jeune Stuart Mill, dans ses principes Principles of Political Economy, publié en 1848. Vous verrez à quel point tous les ingrédients de la croissance sont magnifiquement décrits par un texte court qu'il a écrit donc il y a plus d'un siècle et demi. Et c'est ça qu'il faut méditer. Pour un pays moins développé économiquement, les progrès ne peuvent avoir lieu sans un accroissement de l'industrie et du désir effectif d'enrichissement. Les moyens en sont en premier lieu l'amélioration du gouvernement, une sécurité plus complète pour la propriété, une fiscalité modérée, non confiscatoire, un régime de propriété des terres plus sûr. Ça, c'est important pour les pays qui ont emprunté des modèles collectivistes. Un régime de propriété plus sûr et plus profitable, garantissant aux cultivateurs la pleine jouissance du bénéfice de ses efforts, de ses compétences et de ses investissements. En second lieu, l'amélioration de l'information politique. En troisième lieu, l'introduction de techniques étrangères. C'est une condamnation de l'isolationnisme de beaucoup de pays qui ont refusé les investissements ou les techniques, le transfert de techniques venant des pays plus avancés. L'importation de capitaux étrangers qui instille de nouvelles idées et brise les chaînes de l'habitude. Ces considérations sont plus ou moins vraies pour les populations asiatiques et pour les parties moins avancées de l'Europe comme la Russie. Les termes sont clairs. Je vous remercie. J'espère ne pas avoir dépassé.
Bien, nous allons passer aux questions, une fois que les micros auront été partis. Alors, il y a tout de suite une question en haut, que je vois tout de suite tout en haut, monsieur. Hein? Ensuite là. Levez-vous pour vous voir.
Oui, nous savons que la Chine a mené une politique de contrôle des naissances assez active. Quel a été l'effet sur la démographie chinoise de cette politique et continue-t-elle à mener cette politique ?
Je vous remercie. C'est effectivement une politique drastique de limitation des naissances avec un modèle qui est celui de l'enfant unique dans les villes et à peu près celui de deux enfants dans les campagnes. Il faut savoir que la Chine est un pays très quadrillé, très contrôlé administrativement. Le contrôle venant principalement des autorités du planning familial qui sont liées aux autorités politiques du Parti communiste. La chute de la fécondité en Chine a été extrêmement rapide. Elle s'est produite pour l'essentiel entre 1970 et le début des années 80. Et depuis ce temps-là, on a des oscillations relativement faibles. Entre disons, les années 60 et le début des années 80, on est passé de 6 à 2 enfants par femme. Vers 1970, c'était à peu près le même ordre de grandeur. Et la Chine n'arrête pas cette pression sur les couples. Pour avoir un enfant, vous savez, il faut avoir une autorisation. On n'a d'enfant que si on est autorisé à en avoir. Sinon, bon, il y a des méthodes relativement coercitives pour décourager les couples. La politique ne me semble pas avoir changé récemment. Même si elle est excessive, parce que la Chine va basculer d'un mal vers l'autre, de la croissance excessive vers une décroissance avec un vieillissement extrêmement rapide. Alors beaucoup de gens conseillent aux autorités chinoises de relâcher un peu la pression sur les couples. Mais je crois que maintenant le mouvement est enclenché, c'est difficile d'imaginer un retour. Donc retenez que la Chine est autour de une fécondité de l'ordre de 2 enfants par couple, globalement. Il est même possible, d'après certains auteurs, que ce soit encore inférieur. Et le virage a été pris relativement vite. Donc ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on est autour de 2, voire moins.
Oui, vous avez dit que l'écart entre les pays riches et les pays pauvres continue de se creuser. N'est-ce pas dire que Karl Marx avait raison avec ses analyses ?
Je ne crois pas. On est dans une situation tout à fait différente. Il se produit trois choses dans l'évolution économique. La première, c'est l'explosion des rendements agraires dans les pays les plus avancés. Regardez le nombre de paysans par habitant, dans certains cas, dans les puissances les plus fortes. Vous avez un paysan pour 100 habitants. Il nourrit largement les 100 habitants. Il contribue même à l'exportation, et souvent avec une balance commerciale agroalimentaire très forte. Vous avez eu la même chose aux États-Unis, en Europe et au Japon. Donc, explosion des rendements agraires, explosion des rendements industriels. Regardez maintenant combien il faut d'ouvriers pour produire une voiture, il en faut de moins en moins, et la plupart des choses se sont automatisées, d'ailleurs la population ouvrière, la classe ouvrière a reculé, et vous avez maintenant, sur le secteur tertiaire, les industries et les services, un gain de productivité très rapide dans les pays les plus avancés. Je crois que l'écart est lié au fait que les pays pauvres n'ont pas réussi à prendre le train à chaque fois. Et c'est un peu la question de l'avenir. Est-ce que les pays les plus avancés permettront de sauter certaines étapes du progrès technique dans les pays qui sont proches d'eux ? Vous voyez, c'est un peu ça. Mais je ne crois pas que ça donne raison forcément à Marx, parce qu'en fait, dans l'absolu, il y a eu une croissance de la... Je ne crois pas que ce soit un phénomène d'exploitation qui ait joué. La colonisation est terminée depuis longtemps. Et dans l'absolu, vous avez généralement, même dans les situations les plus difficiles, vous avez généralement une progression quand même du PIB par tête.
Deux questions, si vous permettez. Oui. Vous avez dit que la croissance était difficile à prévoir. Je sais bien que la bourse n'est pas un reflet total de l'économie, de loin, mais on a cette notion en bourse que sur le court terme, il y a de grandes oscillations et une prévision quasi impossible, et au contraire, sur le long terme, en général, les produits d'action sont progressifs sur 10 ans, 15 ans. Deuxième question, vous avez montré deux cartes très intéressantes, une de démographie, une d'autre de richesse. Sachant que vous avez publié quelque chose sur la violence, est-ce que vous avez fait une carte de la violence et est-ce qu'elle recoupe plus ou moins les deux premières ?
Ouais. Non, je n'ai pas fait. Je réponds à la première question. Je ne connais que très mal la bourse. Je sais que dans l'histoire, elle a toujours fait des surprises et les Français seront bien placés pour le savoir. Aux États-Unis, beaucoup de gens. Ce qui impressionne, c'est l'indice américain. Beaucoup de gens sont étonnés chaque mois. La revue The Economist, par exemple, prévoit que ça va être, que c'est une sorte de bulle qui est en train de se créer dans la bourse aux États-Unis et que, comme toutes les bulles, elle va éclater. Enfin, dit, on est dans une phase de changement technique qui fait qu'on peut anticiper pendant un certain temps des hausses de productivité et des hausses de rendement, de profitabilité, si vous voulez. Au deuxième point, non, j'ai absolument pas rapproché les cartes de la violence de celles de la richesse. Mais je pense qu'a priori, elles devraient être liées, parce que les pays instables politiquement ne peuvent pas créer la confiance pour leur population et pour les pays investisseurs. Je pense aux pays en conflit directement, je pense aux pays complètement désorganisés comme l'Union soviétique, où il y a actuellement le record du monde de la violence en termes d'homicide. C'est un taux qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Le taux d'homicide aux États-Unis, en Union soviétique, quatre fois supérieur à celui de la Russie. Mais qui ose maintenant investir en Russie ? Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur l'avenir, même à court terme. Alors c'est difficile de faire des pronostics. Mais encore une fois, c'est la qualité du gouvernement qui est le paramètre le plus fort.
Oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la Russie. Comment se fait-il qu'un pays qui était considéré jusqu'à quelques années comme un pays, une puissance économique, politique, puisse être à ce point effondré aujourd'hui ? Et comment expliquez-vous ce décalage ? Est-ce que les données ont été sous-estimées ? Ou bien est-ce que cela reflète une dégradation qui était déjà existante ?
Oui, je vous remercie. Sur la Russie, on voit un peu mieux maintenant qu'il y a une dizaine d'années. Les chiffres, là vous avez raison de le dire, les chiffres ont été falsifiés pendant très longtemps. Et la CIA les suivait en faisant des petits décrochages à la marge. Donc elle corrigeait un peu à la baisse les taux de croissance absolument fabuleux que l'Union soviétique avait du temps de Staline et puis après. On savait que ce n'était pas ça. On a découvert que non seulement ce n'était pas ça, mais en fait, il y avait quasiment une stagnation depuis Brejnev. Actuellement, ce qui manque le plus à la Russie, c'est le squelette, si vous voulez, d'un État. Il n'y a pas de colonne vertébrale en Union soviétique. L'État ancien, c'est plus ou moins démembré, et il n'a pas été remplacé par une administration honnête, bien structurée, ayant des compétences. En fait, l'économie s'est disloquée en morceaux, contrôlée par des mafias qui ont le pouvoir sur telle centrale nucléaire, ou telle zone où il y a du plutonium, telle zone où il y a des pipelines. L'économie s'est complètement mise en miettes. Et c'est ça le problème numéro un. Il faudrait que le pays reprenne un peu confiance et sache qu'il a un avenir, même s'il a perdu ses colonies.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour. J'espère qu'à travers le mot socialisme, vous vouliez parler du communisme.
Oui.
Ensuite, moi j'ai donc une double question. D'abord, vous sembliez dire que la francophonie était responsable de l'appauvrissement des pays en Afrique, apparemment. Merci pour nous. Et deuxièmement, je suis obligé de regarder. La Chine, je ne comprends pas parce que la Chine a le taux d'inflation assez bas. La Chine a eu un revenu par habitant multiplié par deux. Alors, combien d'années ou combien de siècles ils vont nous dominer avec leur population ?
Je ne puis absolument pas répondre. Il me semble que la Chine restera numéro un en termes de puissance démographique, si vous voulez. Mais ce n'est pas tout à fait sûr. Je pense qu'il n'est pas exclu que l'Inde dépasse un jour la Chine, même si c'est pas acquis. La Chine a vraisemblablement des imperfections de données. Son espérance de vie, donc sa croissance potentielle, n'est pas du tout telle qu'on le public, parce qu'il y a des quantités d'invraisemblances. Il y a des zones entières de Chine qui sont inaccessibles, où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas d'électricité. Alors comment pourrait-il que la Chine ait atteint un niveau d'espérance de vie de l'ordre de 70 ans dès la fin des années 60? Alors que les années 60, vous savez, ont été des années troubles. Il y a eu la plus grande famine du siècle vers 1960 et la révolution culturelle ensuite. Alors, il me semble que l'espérance de vie n'est pas aussi forte que ce qu'on dit. Donc il y a une marge de croissance bien supérieure à ce qu'on pense. Et la deuxième chose sur la Chine, c'est que la baisse de la fécondité n'est peut-être pas aussi importante que ce qu'on pense. Il y a beaucoup d'enfants noirs, entre guillemets, d'enfants qui naissent et qui ne sont pas déclarés. Parce que la Commission nationale de planning familial crée beaucoup elle est tellement autoritaire que les gens ont tendance à dissimuler les enfants qui ne sont pas inscrits dans le plan officiel. Donc il y a probablement une natalité un peu plus forte qu'on pense et une mortalité moins basse.
Oui. Bonjour. Avez-vous parlé tout à l'heure de la CIA?
Ah oui.
Oui. J'ai cru entendre parler de CIA. En effet, la majorité des chercheurs au CNRS dans le monde sont des étrangers. 80% de la richesse, ou nationalisée, 80% de la richesse du monde est détenue par 20% des pays. Il y a donc une politique, une mainmise de l'Occident sur le transfert de technologie, parce qu'il n'est pas de l'intérêt de l'Occident que les autres pays se développent. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est simplement des injections, quelques actions pour développer des secteurs pour renforcer la demande, c'est-à-dire la survie de l'Occident, ni plus ni moins. Or, il y a un piège qui va se refermer de plus en plus, c'est le piège de la croissance qui n'a pas d'arrière assurée dans l'Occident, pour les Occidentaux. Merci.
Pardon, ma question...
Bon, allez-y, pour une question, il y en a une autre. Là. Allez-y, monsieur.
À moi. Au vu de tout ce que vous venez de dire, on peut se rendre compte que les prévisions sont très très difficiles. Cependant, il y a quelque temps, il a été annoncé que nos pays développés devraient refaire appel à l'immigration d'ici environ une vingtaine d'années. Alors, est-ce que vous avez déjà des éléments d'étude à ce sujet? Est-ce qu'on peut envisager ces choses?
Oui, alors la difficulté de la prévision concerne plus l'économie que la démographie. En matière démographique, vous avez des éléments relativement stables. Une personne naît homme ou femme, une personne a une génération qui ne change jamais. Donc on peut prévoir un certain nombre de choses en matière démographique. Et l'idée de refaire appel aux migrations me paraît assez discutable, parce qu'en fait, l'immigration n'a pas cessé, tout simplement. L'Europe n'est plus un continent d'immigration. L'Europe a pendant très longtemps été le premier continent d'immigration du monde. Elle est en train de devenir le premier continent d'immigration. Et même si on veut fermer les frontières, en fait, c'est se faire illusion. C'est un mouvement de fond qui a démarré il y a une bonne trentaine d'années en Europe et qui va se poursuivre. Vous avez, je vous l'ai dit, aux portes de l'Europe, des mondes en situation de détresse. Alors les gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de quoi se nourrir, n'ont qu'une envie, c'est d'aller de tenter leur chance et d'aller ailleurs. Je ne crois pas que c'est dans 20 ans que les choses vont changer. Même dans la situation de crise, entre guillemets, des années 90, l'immigration a été forte vers l'Allemagne, même s'il a été un peu freiné en fin de période. Elle a été forte vers l'Italie, vers l'Espagne, la Grèce, et pas seulement parce qu'il y avait des conflits. Il y a beaucoup de gens qui sont venus non pas en demandeurs d'asile, mais en personnes cherchant à trouver un pouvoir d'achat. Donc le mouvement, à mon avis, ne va faire que s'amplifier. Compte tenu du déséquilibre démographique, l'Europe aura des insuffisances démographiques, des déficits assez importants, on le sait, Et de l'autre côté, vous avez des endroits où les surplus ne sont pas résorbés et ne le seront pas avant longtemps. Et la difficulté de rattrapage est en train de devenir de plus en plus forte. Quand le décalage technique est très important, on a peu de chances d'arriver à un niveau de vie satisfaisant. Donc le phénomène continuera, mais je ne crois pas que...
Oui, ma question s'ajoute, ou plutôt complète, celle de mon voisin. En effet, certains économistes soutiennent que la prospérité continue des pays riches et l'appauvrissement dramatique de nombre de pays, notamment africains, résulte de la domination permanente des uns par les autres et le pillage systématique des pays pauvres pendant et après leur colonisation, sous différentes formes naturellement. Donc, leur pauvreté n'est pas forcément due au désordre politique que vous avez cité tout à l'heure. En plus, quand les pays industriels se proposent de les aider, entre guillemets, ils leur imposent, dans la plupart des cas, les charognards de la Banque mondiale et ceux des multinationales, qui n'ont jamais, en réalité, fait sortir beaucoup de pays de leur misère. Bien au contraire, là où les multinationales s'installent avec l'aide, naturellement, de la Banque mondiale, c'est la misère garantie pour les populations locales. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Je serais peut-être moins fataliste. Je serais peut-être moins fataliste que vous. L'histoire est faite de changements quelquefois impressionnants. Certes, il y a des avances incroyables des pays riches par rapport aux pays pauvres. Mais il faut savoir que le cas que j'ai cité à l'instant, c'est le cas de l'Amérique latine, bah, devrait fonctionner de manière opposée à ce que vous avez dit. Que l'Amérique latine a été pendant très longtemps sous influence américaine, elle l'est encore. L'ANENA, vous savez, c'est les États-Unis et un pays du même type, le Canada, où la plupart des habitants sont concentrés le long de la frontière américaine, et c'est le Mexique, mais... Toute l'Amérique centrale était sous influence américaine, l'Amérique du Sud est fortement sous influence américaine, et on sait que tôt ou tard, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud seront partenaires à part entière des États-Unis. Si ce que vous dites était exact, l'Amérique latine devrait être dans une position extrêmement inconfortable. Or, sa situation, je ne dirais pas qu'elle est bonne, mais elle est intermédiaire. Sur je ne crois pas qu'on puisse dire que la situation de la Russie et du bloc soviétique était créée de toutes pièces par la volonté de multinationales. Ce n'est pas le cas. C'était une région fonctionnant sur elle-même, avec peu de capitaux étrangers jusqu'à maintenant. Il y a une transition à digérer. Et sur l'Afrique, si ce que vous dites est exact, il y aurait dû y avoir une situation affreuse avant les indépendances, et un peu meilleure depuis les indépendances. Je ne crois pas que le modèle d'exploitation rende compte de l'accentuation des inégalités. Je crois davantage, si vous voulez, à l'effort de rattrapage dans chacun des domaines de l'économie. Et c'est ça le fond de l'affaire. L'Inde, dont je vous parle, qui est un espoir maintenant, l'Inde a une croissance très rapide parce qu'elle a changé de modèle de développement. Ce n'est pas parce que la Banque mondiale a essayé de faire quelque chose. Elle s'est rendue compte qu'elle s'était fourvoyée pendant très très longtemps et qu'elle avait un atout extraordinaire, c'est de maîtriser la langue anglaise et d'être excellente d'ailleurs en technique informatique. Beaucoup des élites indiennes sont sur le web en permanence. Et elle a pris conscience que son histoire était essentiellement entre ses mains. La Chine, si la Chine est très en retard, ce n'est pas du fait de l'exploitation capitaliste. La Chine est à certains égards plus en retard que l'Inde. Quand on a des indices sûrs, des indices physiques de développement, comme par exemple le degré de motorisation, le nombre de véhicules pour 100 habitants, ben, la Chine est très derrière l'Inde. Est-ce que c'est la faute aux pays riches ? Je n'ai pas l'impression. La Chine était le centre du monde, elle se considérait comme le centre du monde, et le reste du monde n'intéressait pas. La vision manichéenne avec des bons et des méchants, je crois que dans un certain nombre de cas, ça peut marcher, mais dans d'autres, ce n'est pas convaincant.
Deux dernières questions, monsieur et puis monsieur.
Vous avez employé à plusieurs reprises, mais avec précaution, le terme de surpeuplement. Vous avez dit qu'il n'y a pas de surpopulation mondiale, mais vous nous avez présenté une carte des zones surpeuplées. Est-ce que pour vous, ce concept de surpopulation est un concept pertinent? Est-ce que le critère pourrait en être la densité démographique? Et puis j'aimerais vous poser aussi une deuxième question, dans le prolongement de celle-ci. Quelle est votre interprétation de l'interaction entre la dynamique démographique et la dynamique économique? Et puis si vous pouviez aussi préciser vos attaques contre la politique agricole commune à propos des paysanneries africaines. Merci.
Oui. Oui. Bon, bien sûr, le surpeuplement est une affaire de densité par rapport aux ressources. C'est pas une densité absolue, densité par rapport aux ressources. Oui, ça saute aux yeux. Bon, regardez la vallée du Nil. Il suffirait d'une petite catastrophe alimentaire pour que l'Égypte disparaisse. Et d'ailleurs, l'Égypte, vous le savez, est soutenue par les États-Unis. C'est parce qu'elle a signé des accords de paix avec Israël qu'elle a une aide qui lui permet de survivre. Les méchants, le méchant américain n'est pas toujours quelqu'un qui espère tuer ou faire disparaître ses rivaux potentiels. D'ailleurs, il n'y a plus de rivaux visibles maintenant. Donc c'est une carte des densités. Et l'interaction entre croissance démographique et croissance économique, alors c'est extrêmement complexe. Vous avez des effets positifs de la croissance démographique, comme par exemple la division du travail. Si vous avez plus de personnes et une population qui se dilate, vous pouvez vous spécialiser davantage, ce qui augmente les rendements. Vous avez aussi un phénomène d'échelle. Vous pouvez mettre en place toute une série d'infrastructures et d'équipements qui deviennent rentables parce que vous avez suffisamment de têtes, suffisamment de contributeurs, de contribuables pour rentabiliser. Et inversement, vous avez des éléments qui jouent dans l'autre sens, quand la croissance démographique est très forte, et même trop forte, je crois qu'il y a des cas aussi clairs, elle est trop forte, ben, vous ne pouvez pas suivre la vague. Vous ne pouvez pas vous adapter à la vague. Vous avez un déferlement d'effectifs jeunes qui vous oblige à créer des écoles en masse, des universités en masse, mettre en place toute une série d'équipements plus vite que vous ne le pouvez. Et vous avez un déficit, par exemple, de professeurs qui sont recrutés dans des classes d'âge moins larges par rapport au nombre d'élèves. Beaucoup de pays en développement ont un budget consacré à l'école qui représente la moitié du budget de l'État. Sur la politique agricole commune, ah oui, oui. Non, mais ça, c'est un point de vue qui n'engage que moi. Il me semble que là, il y a une responsabilité que tôt ou tard, on devra modifier cette chose parce qu'elle est particulièrement injuste. Elle permet aux contribuables, enfin, les contribuables riches soutiennent leurs paysans et permettent aux produits d'être exportés à des prix nettement plus bas qu'ils devraient l'être. Et du coup, les paysanneries des pays comme ceux de l'Afrique ou de l'Inde ne peuvent plus entrer dans les circuits mondiaux. Donc je crois que la politique agricole commune devrait diminuer. Et elle diminuera parce que l'intégration de la Pologne, qui est le premier pays agricole pour la première vague d'élargissement, l'intégration de la Pologne obligera à revoir les paramètres. Et on a en fait à construire une Europe qui soit une Europe politique, en grande partie passée par une Europe au départ de l'industrie et de l'acier. Ensuite, ça a été budgétairement une Europe de l'agriculture, c'est absurde, c'est complètement absurde. Et modifier la politique agricole, c'est donner une chance à des paysans d'entrer sur le marché et d'exporter leurs produits, des paysans en provenance des pays les plus pauvres.
Alors, dernière question, une seule, s'il vous plaît.
Ben, donc, moi, je n'avais pas de question, puisque ma question, c'était interaction entre croissance économique et démographie. On m'a volé ma question.
Bon, ben, écoutez, merci.